grand titre de ce 23 avril, jour J pour le premier tour de l'élection présidentielle française. La Corée du Nord menace l'Australie de frappe nucléaire. Des centaines de milliers de personnes dans le monde manifestent pour défendre les valeurs de la science. Tennis, l'Espagnol Rafael Nadal vise son 10e titre de Monte Carlo ce dimanche, mais il devra éliminer son compatriote Albert Ramos. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est ce dimanche, et on vote aussi en Australie. Les candidats sont pratiquement coude à coude, les quatre candidats sont pratiquement au coude à coude pour se qualifier pour le 2e tour, et ils ne seront que 2 à se qualifier. Johanna Hébert pour Radio France Internationale explique les modalités du premier tour.
47 millions de personnes inscrites sur les listes électorales cette année, c'est 2% de plus qu'au précédent scrutin en 2012. 47 millions de personnes qui pourront donc aller dans leur bureau de vote tout au long de la journée. Pour le trouver, 2 solutions. L'adresse est inscrite sur la carte d'électeur. Sinon, certaines mairies ont mis en place un moteur de recherche sur leur site internet. Ceux qui n'ont pas leur carte peuvent quand même voter. Une pièce d'identité avec une photo suffit. À noter que dans une 60aine de villes, le vote se fera par voie électronique. Il y a en tout 67 000 bureaux de vote répartis sur le territoire. 50 000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens 3 jours après l'attaque sur les Champs-Élysées. Les horaires d'ouverture, de 8h à 19h, 1 heure de plus qu'à la précédente élection, ou 20h pour les grandes villes. C'est ce qui explique que ce soir, les premières estimations pourraient justement tomber après 20h.
Voilà, c'était Johanna Hébert pour RFI. En Australie, donc, vous pourrez voter en personne dans votre bureau de vote ou par procuration. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce matin et seront ouverts jusqu'à 19h. À Sydney, c'est au 758 Anzac Parade à Maroubra. À Adélaïde, vous pouvez voter à l'Alliance française d'Adélaïde, 319 Yonge Street. À Brisbane, c'est dans les locaux de l'Alliance française également, 262 Montague Road à Brisbane. À Canberra, vous pouvez voter à l'ambassade de France, 66 Perth Avenue à Canberra. Et à Melbourne, dans les locaux de l'Alliance française de Melbourne, donc 51 Grey Street à St Kilda. Et à Perth, dans les locaux de l'Alliance française de Perth, 75 Broadway à Ned Lands. Les Français résidant dans le Northern Territory sont rattachés au bureau de vote de Sydney, et les Français résidant en Tasmanie sont rattachés au bureau de vote de Melbourne. Notez qu'il faut présenter une pièce d'identité pour voter. Et puis, suivez les débats du scrutin du premier tour de l'élection présidentielle de France 24 demain matin à partir de 5h du matin, rediffusé sur la télévision SBS. Et puis, les nouvelles de forte abstention inquiètent les autorités et les candidats aussi. Le point avec Juliette Gerbrand pour RFI.
En 2012 comme en 2007, seuls 40% environ des Français de l'étranger ont voté à l'élection présidentielle. Pour le dernier scrutin, c'est moitié moins que leurs compatriotes inscrits sur le territoire. Si l'on en croit les questions posées par les expatriés sur Internet, il n'est pas toujours simple pour eux d'aller voter. Certains doivent faire plusieurs heures de voyage, parfois en avion. D'autres se plaignent d'être inscrits dans un bureau distant de 300 km alors qu'il y en a un en bas de chez eux. D'autres encore n'ont pas reçu confirmation de leur inscription. Aux législatives de 2012, le vote électronique avait été mis en place pour simplifier les choses. Non seulement il n'a pas été étendu au scrutin présidentiel, mais il a été entièrement annulé cette année en raison des risques de piratage informatique. Une décision annoncée il y a quelques semaines seulement aux grandes dames des électeurs et de leurs candidats. Ce dimanche, les Français de l'étranger devront donc se déplacer dans l'un des 864 bureaux de vote à leur disposition. À noter que sur le continent américain, le scrutin se déroule le samedi et non le dimanche en raison du décalage horaire.
Juliette Gerbrand pour RFI. La Corée du Nord a accusé l'Australie de suivre aveuglément les États-Unis et averti qu'elle sera la cible d'une frappe nucléaire. Un porte-parole nord-coréen déclare que l'Australie est en train de diffuser de fausses informations sur la Corée du Nord. Le porte-parole de l'opposition fédérale en Australie en matière de défense, Richard Marles, ne pense pas qu'il y aura un conflit sur la péninsule coréenne, mais la menace contre l'Australie est inquiétante.
China are talking about the fact of if we're going to deal with North Korea, it needs to be China, America, and the whole world dealing with the question of North Korea. In that, the Chinese are absolutely right. So I actually think that there is a lot of positives out of this in terms of the way the world is reacting to North Korea, but there needs to be, because the idea of this state seeking to weaponize intercontinental ballistic missiles with a nuclear warhead is obviously a very frightening prospect.
Voilà, c'était Richard Marles, le porte-parole de l'opposition fédérale. Mike Pence, le vice-président des États-Unis, est à Sydney depuis vendredi pour une visite officielle et déclare que son pays est reconnaissant pour le soutien de l'Australie dans les efforts diplomatiques avec la Chine concernant la Corée du Nord.
I want to reiterate again the gratitude of the United States of America for the strong support that our ally here in Australia has provided to this effort. Even this week, meeting with high-ranking officials from China, urging them to do more, we truly believe that as our allies in the region and China bring that pressure to bear, that there is a chance that we can achieve a nuclear-free Korean Peninsula by peaceable means.
Voilà, c'était Mike Pence. Le groupe Refugee Action Coalition déclare que l'engagement des États-Unis à réinstaller des réfugiés de Manus Island et de Nauru ne fournit aucune garantie aux demandeurs d'asile. Mike Pence, le vice-président américain, a confirmé hier que les réfugiés seront réinstallés après un processus de vérification strict. Ian Rintoul du groupe Refugee Action Coalition déclare, je cite, le diable est dans les détails.
While US officials have been on Manus and on Nauru, there is still no indication whatsoever when the process is going to be completed, when anyone is likely to go from there, and worst of all, we've got no idea of exact numbers. And as this goes on, it unfortunately becomes clear, I think, that there is nowhere near enough acceptance places in the US to cater, to accommodate all the people who are found to be refugees on Manus and Nauru.
Ian Rintoul. On écoute maintenant le reportage de Caroline Lafargue pour Radio France Internationale.
Le gouvernement australien veut vider deux centres de rétention qu'il a ouverts à Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à Nauru, une micro-république du Pacifique. Canberra refuse d'accueillir ses réfugiés, en grande partie musulmans, sur son sol. Et en novembre dernier, Barack Obama avait donc accepté de donner 1250 visas à ces migrants. Donald Trump a jugé l'accord, je cite, « stupide ». Mais finalement, son vice-président a annoncé que les États-Unis honoreront cet arrangement à contre-cœur. Lors de sa visite officielle en Australie, Mike Pence a présenté ce geste comme une faveur concédée à Malcolm Turnbull, le Premier ministre australien, je cite, au nom de l'importance énorme de l'alliance historique qui lie les États-Unis à l'Australie. Le gouvernement australien pousse un soupir de soulagement car il y a urgence. La situation est explosive dans les centres de rétention de Nauru et Manus. La plupart des migrants y sont enfermés depuis 2013 dans l'attente d'un pays d'accueil et totalement désespérés. En parallèle, les tensions avec les populations locales augmentent. La semaine dernière encore, à Manus, une bagarre a éclaté entre des militaires papous et des réfugiés. Les policiers ont dû tirer des coups de feu pour établir l'ordre sans faire de blessés.
Caroline Lafargue pour RFI. La branche australienne de Amnesty International déclare que le gouvernement fédéral doit immédiatement évacuer les réfugiés de Manus Island et de Nauru après la publication d'un rapport par le Sénat qui pointe du doigt les abus contre les réfugiés. Dr Tom de Amnesty International déclare que c'est urgent de relocaliser ces réfugiés en Australie d'abord.
The reality is we've just had another Senate inquiry that again highlighted the fact that these people should be taken off those islands, that a number of options should be explored. The US is not the only place that has offered to take them. New Zealand has also offered to take them. But the simplest way is just to bring them here. You know, enough is enough, and that's what Amnesty is calling on the Australian government to do.
Dr Tom de la branche australienne de Amnesty International. Le Labour accuse le ministre du Trésor, Scott Morrison, de refroidir les attentes sur les mesures d'accessibilité au logement. Bill Shorten, le leader de l'opposition fédérale, était hier dans la circonscription de Lindsay, en Nouvelle-Galles du Sud, en campagne. Le Labour propose une taxe sur les investisseurs qui laissent leurs maisons vides au lieu de les louer et de doubler les frais de demande d'investissement étrangers étrangers pour les achats résidentiels en Australie.
The Australian dream of owning your own home seems more out of touch and elusive than ever before. That's why I think that all Australians are rightfully angry at Turnbull's weakness in moving away from housing affordability being a centrepiece of the budget, which is coming up in early May.
Voilà Bill Shorten, le leader de l'opposition fédérale. La marche pour défendre les fondements de la démarche scientifique a attiré des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Les manifestants déclarent que le nouveau gouvernement américain est une menace à la science après la déclaration de Donald Trump sur le rôle de l'homme concernant le changement climatique et les régulations sur la production du charbon et du pétrole. Le scientifique Jonathan Foley était parmi les manifestants à Washington.
Now take a look at the science that's under attack. They're specifically targeting science that protects our health, our safety, and the environment. Science that protects the most vulnerable among us.
Voilà, c'était le scientifique américain Jonathan Foley. À Sydney, des centaines de personnes ont manifesté également pour la science. Jocelyn Prasad, porte-parole des manifestants, parle du besoin de plus grande sensibilisation et de meilleure appréciation.
Today, I think people are calling for politicians to pay more attention to science. I think they're also calling for greater science literacy in Australia, and I also think that there is a need for better communication of science.
Voilà, c'était Jocelyn Prasad, porte-parole des manifestants pour défendre les valeurs de la science. En Afghanistan, le carnage après que des talibans déguisés en militaires sont entrés dans une base militaire au nord du pays. Un Mazar-i-Sharif a tué près de 140 soldats afghans et blessé plusieurs autres. Karim Paksad est chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à Paris. Il est spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Irak.
Aujourd'hui, les talibans sont présents partout dans le pays. L'attentat de hier se produit dans le nord de l'Afghanistan, c'est-à-dire en dehors des zones traditionnelles de l'influence des talibans. Après la fin de la présence de l'OTAN, notamment le retrait de presque 100 000 soldats américains d'Afghanistan, il y a de plus en plus la possibilité pour les talibans de mener beaucoup plus facilement que dans le passé leurs offensives. Ensuite, le gouvernement afghan n'a jamais montré vraiment qu'il est capable d'assurer la sécurité dans le pays. Mais ensuite, il y a un autre élément, c'est que le Pakistan, qui traditionnellement soutenait les talibans, continue à les soutenir. Dans tous ces éléments, on montre qu'aujourd'hui, en Afghanistan, les talibans sont les maîtres de jeu, au point où des pays voisins comme la Russie, la Chine, l'Iran, ils ont commencé à dialoguer avec les talibans parce que tout le monde pense qu'un jour ou l'autre, les talibans pourraient revenir au pouvoir à Kaboul.
Karim Paksad, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Afghanistan sur RFI. Le parti populiste de droite allemand, anti-migrant, l'alternative pour l'Allemagne, l'AFD, tient un congrès ce week-end à Cologne. Reportage Pascal Thibault pour RFI.
À fond à droite, c'est en tout cas l'impression que donne l'AFD, officiellement Alternative pour l'Allemagne. Le parti fondé il y a 4 ans par des intellectuels conservateurs, hostiles au programme d'aide au sein de la zone euro, a évincé depuis les pères fondateurs pour devenir un parti populiste de droite plus radical. L'arrivée massive de réfugiés en 2015 a permis au mouvement, en perte de vitesse à l'époque, de rebondir en exploitant les ressentiments contre les migrants et l'islam. Depuis, l'AFD est allé de succès en succès lors de diverses élections régionales et compte bien rentrer au bout de stack lors des élections générales de septembre. Mais les déchirements internes qui ont toujours existé persistent. La coprésidente du parti, Frauke Petri, qui incarne le mouvement, a vu sa motion prenant un cours plus modéré contre des membres plus radicaux retoquée par le congrès réuni à Cologne. Son annonce surprise mercredi de ne pas emmener le parti lors des législatives de septembre pour mieux faire accepter sa motion n'a pas porté ses fruits. Les deux prochaines élections régionales en mai diront si le parti en perte de vitesse dans les sondages profitera ou non de cet énième rebondissement.
Voilà, c'était le reportage de Pascal Thibault pour RFI. Un mot de sport, l'Australie mène 2-0 dans la Fed Cup contre la Serbie en barrage du groupe mondial. Et puis la France, elle, mène 2-0 contre l'Espagne dans le groupe mondial. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 26 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 22, Hobart 17, Canberra 22, Wollongong 24, Sydney 25, Newcastle 24, Brisbane 25, Cairns 29, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce 23 avril, jour J pour le premier tour de l'élection présidentielle française. La Corée du Nord menace l'Australie de frappe nucléaire. Et en tennis, l'Espagnol Rafael Nadal vise son 10e titre de Monte Carlo ce dimanche.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench